message que le Seigneur a déposé sur mon cœur déjà depuis quelques semaines correspond particulièrement à ce thème qui était apporté ce matin. Et je veux croire que c'est une continuité. Et je souhaite que chacun d'entre nous, nous puissions nous saisir de cette promesse, de cet encouragement de Dieu pour chacune de notre vie. Accompagnez-moi, si vous le voulez bien, dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Et nous allons lire ce seul verset et nous ciblerons le milieu du verset avant d'aller dans une autre lettre que Paul adresse à une autre église. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Et nous lisons le verset 10. Et Paul parle, il dit « Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et c'est là où je voudrais que nous puissions nous arrêter, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. » Et puis, le deuxième texte que j'aimerais lire avec vous se trouve dans l'Épître de Paul, cette fois aux chrétiens d'Éphèse, et au chapitre 3, au verset 8. Au verset 8. « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesse. » Et vous avez compris que nous allons parler ensemble de ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Il nous a donné bien au-delà de ce que nous aurions pu espérer et penser. Il s'agit de richesse. J'aurais pu tout simplement monter sur l'estrade et vous donner le titre que j'ai donné à la prédication cet après-midi, « Enrichi pour enrichir ». Nous avons été enrichis, et là nous sommes heureux de le savoir. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu veut pour nous. Enrichi pour enrichir. Et j'aurais pu vous poser cette simple question. Vos richesses enrichissent-elles les autres? Et lorsque nous réfléchissons à cette question, nous sommes obligés de penser à ce que Paul dit. Pauvres, mais nous en enrichissons plusieurs. Première chose qui est importante pour nous, c'est de nous souvenir que dans ces deux textes, ça doit nous amener d'abord à penser à notre condition première. Dans une des lettres que Paul adresse, je dirais que nous étions pauvres. Et c'est bien de s'en souvenir. C'est bien de se souvenir que nous étions pauvres. Parce que lorsque nous nous souvenons que nous étions pauvres, alors nous réfléchissons non seulement à la manière dont nous sommes enrichis, mais nous nous souvenons surtout de celui qui nous a enrichis. Et c'est là qu'est toute la différence. Parce que je peux, à un moment donné, me souvenir simplement des richesses que j'ai accumulées au fur et à mesure. Mais si je me souviens de celui qui m'a enrichi, ça change les choses. Parce que là, ça développe en moi, je dirais, une forme de reconnaissance. Je dirais même une forme de dépendance. Qui est celui qui m'a enrichi ? Et ce matin, lorsque j'entendais cette notion de semence, oui, nous avons reçu des choses. Nous les avons reçues de qui? Et c'est bon quand, dans notre cœur, nous repassons dans notre cœur celui qui est le seul capable de nous enrichir. C'est pour ça que Paul dira, j'étais pauvre, moi, pauvre. Qu'est-ce que je pouvais apporter? Et chacun d'entre nous, nous sommes convaincus que de par nos efforts, nous ne pouvons rien apporter. D'ailleurs, il est écrit à un autre endroit, mais pourquoi tu te glorifierais des choses que tu as reçues? Si tu les as reçues, pourquoi tu t'en glorifies? Et lorsque nous appartenons à l'Église, la première chose que nous nous souvenons, c'est qu'effectivement, nous étions pauvres. Mais nous savons que celui qui nous a enrichis va nous communiquer les moyens d'en enrichir d'autres. La deuxième chose, c'est que ces richesses, elles nous ont été données pour les partager, non pas pour les garder. Après ce texte dans Matthieu chapitre 6, verset 19, vous le connaissez, nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni de dérobent. Alors peut-être que quelqu'un pourrait penser que mais ces trésors, c'est ce que j'ai reçu et je vais le garder tout simplement en m'arrêtant de penser que c'est le Seigneur qui me les a communiqués et je vais les garder précieusement alors que j'ai mon salut et je prie chaque jour pour que le Seigneur me garde de tomber. Ce serait dommage. Ce serait dommage dans son cœur de garder, d'avoir que comme préoccupation, de considérer ce salut comme une réelle richesse. Et c'est vrai que c'en est une pour chacun notre vie. Et si quelqu'un se trouvait là au milieu de nous cet après-midi et commençait à s'interroger, mais de quoi il parle de salut, mais qu'est-ce que le salut? J'aimerais tout simplement te dire, c'est te poser cette question. Quelle est ton espérance? Non seulement pour les mois, les années qui viennent, mais pour ton éternité. C'est de cela qu'on parle, de richesse, de salut. Nous avons été sauvés et nous avons cette richesse, je dirais cette richesse première. Et je vous invite à vous interroger sur cette première richesse qu'il est importante pour vous de recevoir de la part de Dieu. Mon ami, as-tu reçu cette première richesse, le salut de ton âme? C'est important ça. C'est important d'être enrichi de cette bénédiction de Dieu. Mais il y a quelquefois une manière effectivement de faire de cette richesse, je dirais, quelque chose que j'amasse. Il y a dans le chapitre 6 de Matthieu une succession de choses, succession d'enseignements. Si vous le lisez, si vous le relisez chez vous, vous verrez qu'on parle de l'aumône, puis de la prière, puis du trésor dans le ciel, et puis Jésus va s'arrêter et il s'adresse à ses disciples et il leur dit de ne pas vous inquiéter. Alors quel rapport avec les richesses? Vous savez, quand on est sur la terre, on s'inquiète dans un premier temps de savoir comment je peux faire pour acquérir des richesses. Ensuite, comment je peux faire pour faire en sorte qu'elles se multiplient. Et si elles n'arrivent pas à se multiplier à la vitesse que je souhaiterais, alors surtout, comment je peux faire pour les garder? C'est vrai que nous connaissons des temps difficiles. Et c'est vrai que lorsque nous écoutons la radio, lorsque nous regardons la télévision, lorsque nous intéressons un petit peu à tout ce qui s'annonce pour nous, on nous parle de crise. Et moi, je vous prêche d'enrichissement. Et c'est vrai que les gens qui sont autour de nous se posent la question, mais que va-t-il advenir? Que va-t-il advenir? Et nous avons reçu une richesse qu'il nous est donné de pouvoir garder dans les lieux célestes. Cette richesse, elle est non seulement pour nous, mais elle est pour les autres qui nous entourent. C'est important de ne pas se laisser gagner, je dirais, par cet automatisme de cet esprit du monde. J'ai une richesse, il faut que je la garde pour moi, il faut que je la fasse fructifier pour moi. Et puis, surtout, je vais la regarder comme quelque chose que personne ne doit convoiter. Pour l'instant, je vous parle de richesses matérielles. Mais je voudrais vous amener maintenant sur le terrain des richesses spirituelles. C'est vrai que le monde s'intéresse uniquement aux richesses matérielles. Mais nous, cet après-midi, ce qui est important, c'est de réfléchir non seulement à ce que Dieu nous a donné, mais qu'est-ce que nous mettons en œuvre pour que ces richesses soient communiquées à celui et à celle qui est tout près de moi? Non pas au monde en général, mais à celle ou celui qui est tout près de moi. Les richesses matérielles et les richesses de ce monde rendent égoïstes, et vous le savez. Mais ce que Dieu nous donne, il nous le donne afin que nous allions et que nous puissions le donner. Quand je thésaurise, j'ai employé un mot qui est très fort. Sur le plan spirituel, je dirais que si nous thésaurisons nos richesses, il y a un moment donné où nous pouvons être semblables à une forme d'adultère. Peut-être que vous allez être surpris par cela. Mais que vient faire l'adultère, là? Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, Jésus dira « Nul ne peut servir deux maîtres, Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et je vous invite uniquement à cela. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Je l'ai entendu, ça veut dire que plusieurs d'entre vous, non seulement vous avez lu le texte, mais vous avez retenu ce nom, Mammon. Alors je me suis interrogé sur ce nom Mammon. Et il est dit qu'en araméen, Mammon vient de Mammo, qui signifie richesse, bien. Les richesses et les biens. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne fais pas attention à la manière dont je vais utiliser ce que Dieu m'a donné, je peux à un moment donné me retrouver dans cette situation d'adultère spirituel. Seigneur, j'ai donc deux amours. Seigneur, dans ma vie, je pourrais avoir ça? Est-ce que ce serait possible? Et j'entends bien que nous puissions à un moment donné, dans notre réflexion, être un peu choqués par cela. Peut-être que jamais on avait pensé que Mammon pouvait être aussi richesse, bien, et qu'à partir du moment où je garde ces choses pour moi, non seulement les choses matérielles, mais les choses spirituelles, les talents que Dieu m'a donnés, alors est-ce que là, à un moment donné, je ne peux pas dire à Dieu, écoute, merci pour moi, occupe-toi des autres. Alors que le Seigneur me dit, va et distribue. Mais je ne vais plus en avoir assez, Seigneur. Aussi. Le Seigneur nous donne chaque jour, à chaque fois que je vais dans sa présence, le Seigneur me donne quelque chose d'important. Il ne me donne pas simplement des richesses comme moi je peux les comptabiliser. Il me donne tout simplement une huile fraîche. Il me donne de recevoir, non pas quelque chose, mais il me donne de recevoir une puissance. Et cette puissance, c'est celle que le Seigneur déverse dans mon cœur par l'action de son Saint-Esprit, qui me donne de ne plus voir les choses comme je vois, mais de voir les choses comme lui les voit. Vous rappelez-vous de ce miracle avec ce prophète qui dit à cette veuve qui, à un moment donné, est en train de comptabiliser l'huile qui lui reste et il y en a tellement peu. Regarde aussi la farine, il y en a tellement peu. Et ce prophète vient et il va lui dire, fais-moi d'abord. Et moi, lorsque je lis ce texte, à chaque fois, je me dis, mais quelle foi cette femme a pu avoir. Donne-moi d'abord. Et elle a expliqué un peu au prophète, mais ce qu'elle avait, on prend ça et nous mourrons. Donne-moi d'abord. Et lorsque nous sommes là prêts à entrer sur le terrain de Dieu, et j'appelle ça le terrain de la foi. Seigneur, un jour le disciple a dit, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, nous jetterons les filets. Et quelquefois, nous pensons que nous sommes tenus par ce que nous voyons, nous sommes tenus par ce que nous pensons, parce que nous réfléchissons. Merci Seigneur pour l'intelligence que tu nous as donnée. Mais moi je crois au renouvellement de l'intelligence. Parce que le Seigneur, par son esprit, renouvelle mon intelligence et me donne de voir comme lui voit. Et c'est important de voir comme lui voit. Parce que quand nous regardons comme lui voit, nous savons que le Seigneur est capable de prendre des choses qui sont pour nous banales, comme nous disons, et les transformer en richesses. Ce ne sont pas les choses que nous fabriquons qui nous rendent riches. Ce sont les choses que nous recevons de la part de Dieu. Une autre femme qui ira chercher, le prophète lui dira, va chercher des vases afin que je puisse les remplir. Et quand on regarde bien, la femme est allée chercher des vases et des vases et des vases. Combien de vases ne sommes-nous prêts à aller chercher? Combien de vases je suis prêt à dire, Seigneur, donne-moi encore des vases vides, donne-moi encore des vases vides, parce que je sais que tant que j'amasse, tant que je vais chercher à l'extérieur des vases qui sont vides, vides de toi, Seigneur, tu es là et tu es prêt à les remplir de ton esprit. Je voudrais regarder cette salle et je veux dire, Seigneur, tu veux que cette salle soit trop petite. Tu veux que sur chacune des chaises, des vases s'ajoutent au point qu'il y en ait, j'allais presque dire, de l'autre côté de la rue et que vous puissiez dire, mais il y en a un grand nombre. N'arrêtez surtout pas d'aller chercher les vases, parce qu'il est écrit que lorsqu'il n'y avait plus de vase, l'huile s'arrêta. Je voudrais vous poser cette question. Avez-vous quantifié ce qui est pour nous le niveau satisfaisant du Saint-Esprit dans nos vies? parole de Dieu parle de plénitude. Ancienne alliance nous parlait d'onction, mais nous sommes sous cette nouvelle alliance et le Seigneur nous parle de plénitude. C'est vrai que quelquefois, je vais vous confier quelque chose. C'est vrai que quelquefois, j'ai du mal à concevoir, je dirais, cette chose que l'on dit, plus de toi, Seigneur. Alors, plus de la plénitude, c'est quoi? Moi, je crois que le Seigneur nous a donné en abondance. Et que nous n'avons pas à dire, plus de toi, Seigneur. Mais nous avons dû surtout dire, pour chacun d'entre nous, Seigneur, continue à vivre en moi avec puissance. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'une huile fraîche. Et je sais que le Seigneur nous a donné de pouvoir être remplis de son Saint-Esprit et remplis jusqu'à la plénitude. C'est pas en fonction de ce que mes efforts vont faire, mais c'est simplement en fonction de mon intimité avec lui. Plus je passe du temps dans sa présence, et ça ne veut pas dire tout simplement prendre du temps dans ma chambre et m'arrêter là et dire non, mais tant que mon cœur est en communion avec lui, je peux y être toute la journée. Je dis, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé afin que je puisse comprendre les choses d'en haut, les choses que tu veux me donner par le Saint-Esprit. Je vois comme tu vois. C'est là le désir du Seigneur, c'est de cela qu'il veut m'enrichir. C'est lui qui me donne la puissance de croire que ce que je pense perdre un instant, mon confort, le Seigneur veut me mettre au large. Je veux croire que quand le Seigneur les conduisait au désert, ça ne devait pas être évident. Quand à un moment donné, la nuée se levait, oh, ça voulait dire quoi? Faut bouger. Alors, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que ces hommes et ces femmes, les enfants, les troupeaux et tout cela qui devaient bouger sans avoir eu le temps peut-être de s'installer, bon, ça perturbe. Et je crois que le Seigneur veut aussi perturber nos habitudes. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous nous installions dans une forme de richesse. Vous voyez, les gens acquièrent quelque chose. Ah, j'ai ma petite maison, j'ai mon petit plan de jardin. J'ai ma voiture, tout va bien, je m'arrête là, ça c'est pour le matériel. Mais dans la vie spirituelle, est-ce qu'il n'y a pas des moments où peut-être que nous arrêtons à notre salut? Oh, merci Seigneur pour ton salut. Merci de ce que tu as fait de moi un enfant de Dieu. Merci pour les serviteurs que tu envoies. Merci pour les missionnaires que tu envoies. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans l'église. Et on oublie de s'arrêter un instant pour écouter le Seigneur nous dire. Et si tu voulais savoir ce que je veux faire pour toi. C'est bon de savoir quelle richesse le Seigneur a pour chacun d'entre nous. L'Église a été représentée comme le corps. Et vous avez lu cela. Et vous savez que chaque partie du corps a une fonction différente. Et le corps ne fonctionne bien qu'à partir du moment où chaque chose est à sa place. Et moi, je crois que chaque membre ici de cette église locale, vous avez reçu une richesse pour qu'elle soit multipliée en fonction de ce que Dieu vous a donné et qu'elle vienne s'ajouter aux richesses des autres et communiquer à ceux qui sont au dehors cette bénédiction qui vient d'en haut. Et je disais tout à l'heure, dans ce verset, je réfléchissais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que c'est amasser dans le ciel ? Et pendant que je méditais, le Seigneur déposait sur mon cœur, qu'est-ce que tu peux amasser dans le ciel? Rien, si ce n'est que ce que je te donne. Et ce que je te donne, c'est les richesses les plus grandes, les âmes. Ce sont les âmes que nous amassons dans le ciel. Ce ne sont pas simplement nos œuvres que nous faisons par la grâce de Dieu, parce qu'il nous conduit dans sa bonté et sa grandeur à encourager notre foi, mais le plus important pour lui, ce n'est pas tout simplement de s'arrêter à faire chanter peut-être apporter quelque chose, quel que soit un service dans l'église. Le plus important pour nous, c'est de savoir qu'il y en a un grand nombre qui ont besoin d'être enrichis par la bonne nouvelle de Christ. Et toi, cet après-midi, si tu es là dans cette salle et que tu as besoin dans ton cœur de connaître cette richesse extraordinaire, je voudrais pouvoir tout simplement te dire, connais Jésus. Connais Jésus. Fais une rencontre personnelle avec lui. Comment je fais? Tout simplement, crois que Jésus est mort pour toi. Crois qu'il a pris le châtiment à ta place et qu'il est là par son esprit ce soir, cet après-midi, qu'il est là au milieu de nous et qu'il t'invite tout simplement à avoir une rencontre personnelle avec toi. Ça, c'est important. Je disais qu'il n'y a pas plus grande richesse que d'amasser des âmes dans le ciel. Vous savez pourquoi ? Parce que le Seigneur me conduit dans ce verset et il me dit « il n'y a pas plus grande joie dans le ciel ». Et vous pourriez dire le reste. Pourquoi ? À quel moment il y a une très grande joie dans le ciel ? Pour un seul pécheur qui se repent. Alors nous sommes tous assemblés. Je pense que nous sommes un peu plus de 99 juste cet après-midi. Si je vous demandais de lever la main en disant « quels sont ceux qui ont l'assurance de leur salut éternel ?» Je ne les compterai pas, mais je suis sûr que ce serait certainement une grande majorité. Et le Seigneur est en train de regarder avec son esprit, il sonde les cœurs et les reins. Et toi, peut-être, tu es, entre guillemets, noyé au milieu de cet auditoire. Je voudrais te dire que les yeux de Jésus s'abaissent sur toi. C'est toi qui le regarde. Toi, tu regardes les autres, tu te dis « oh, ces gens-là, ils ont découvert quelque chose certainement de très bien. C'est pas mal ce qu'il dit, lui, là-bas. » Mais moi, ce que je voudrais te dire, c'est que le Seigneur est en train de parler à ton cœur. Et le Seigneur est heureux de savoir que tout à l'heure, les 99 justes ont loué son nom, ont pu chanter ce que tu as vu peut-être affiché sur l'écran. Et on dit « gloire à Dieu pour ce que tu as fait dans nos vies. Ma joie est immense, je peux chanter de tout mon cœur. » Mais le Seigneur est en train de dire « toi, c'est toi que je suis venu chercher aujourd'hui. » Parce que c'est toi qui manques à cet auditoire. Tu es assis sur les chaises, mais es-tu assis dans le ciel déjà ? Quelqu'un dira « ah bon ?» Oui, parce que ça aussi je l'ai lu dans sa parole. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Et ça, c'est reposant. Toi, tu es assis sur une chaise peut-être cet après-midi, mais au fond de ton cœur, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas le repos. Moi, par la grâce de Dieu, je suis déjà assis dans les lieux célestes. Le Seigneur a pardonné mes péchés. Désormais, il n'y a plus aucune condamnation pour ma vie. Ça, c'est ma paix. Et je voudrais pouvoir te la communiquer de la part du Seigneur Jésus. Dire, sois en paix. Accepte cette richesse que le Seigneur a déposé dans mon cœur et que je veux partager avec toi, ainsi que tous ceux qui ont fait cette rencontre avec Dieu. Nous voudrions partager cette richesse avec toi. Saisis-toi de cette richesse cet après-midi. Paul dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. C'est cela, être capable de communiquer une richesse, la richesse de la réconciliation. Peut-être que quelqu'un connaît dans sa famille des moments difficiles, et il se dit, mais oui, la réconciliation, c'est véritablement la richesse. Si on pouvait tous vivre en paix, qu'est-ce que ce serait bien ? Tu vois cette richesse et tu sais que tu en as besoin. Elle est la même pour le Père éternel. Il voudrait tellement que tu puisses être réconcilié avec lui. Saisis cette richesse. Accepte tout simplement ce qu'il te propose. Sa richesse, c'est d'avoir donné son Fils, mourir sur la croix pour toi, afin que, à ton tour, tu puisses être enrichi et être appelé enfant de Dieu. Est-ce que vous avez réfléchi à ça ? Il a fait de nous des fils et des filles de la maison de Dieu. Ce n'est pas une richesse, hein ? Et il nous le donne d'être héritier. Et quand on parle d'héritage, on ne parle pas de richesse ? Et si ! Héritier et co-héritier de Christ. Et puis, dernier point que je voudrais partager avec vous. Notre vie, c'est une lettre. Il y a des lettres, je vous l'accorde, qui ne sont pas toujours des richesses. Mais il y a des lettres de bonnes nouvelles. Non ? Eh oui, il y a des lettres de bonnes nouvelles, des lettres qui nous annoncent des choses extraordinaires pour notre vie, des lettres qui nous parlent de projets d'enrichissement, qui nous expliquent que bientôt, Jésus viendra sur les nuées du ciel et qu'il nous appellera à venir à sa rencontre. C'est pas une richesse, ça ? Quelque chose que j'ai remarqué, c'est que bien souvent, et c'est normal, nous prêchons le salut et les chrétiens entre eux expriment, j'allais dire, leur témoignage de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Mais nous n'avons pas toujours, je dirais pas ce réflexe, cette discipline. C'est-à-dire cette fonction de disciple, d'élève, qui sait que je dois partager le fait de dire ce que Jésus a fait pour moi, il veut le faire pour toi. Et dépêche-toi. La parole de Dieu nous dit, pressez-les d'entrer. Dépêche-toi d'entrer dans le royaume de Dieu. Dépêche-toi d'avoir part à cette richesse, à cet héritage céleste. Cette lettre que nous représentons, nous pouvons la lire dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Je vais prendre ce texte pour vous. Deuxième épître de Paul à Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des cœurs de tables de chair, sur ces cœurs qui sont des tables de chair. Vous savez, si nous n'avons pas un cœur de chair, nous ne pouvons pas avoir de compassion pour celui qui se perd. Les mauvaises richesses endurcissent notre cœur. Elles ont endurci le cœur des pharisiens. Les pharisiens étaient persuadés que les richesses, même certains d'entre eux prétendaient que c'était un signe de prospérité, donc de bénédiction de Dieu. Et ils endurcissaient leur cœur. Et Jésus est obligé de prendre les disciples à part. Et j'aimerais que nous puissions prendre ça pour nous aussi cet après-midi. Il prend les disciples à part et il leur révèle exactement ce que nous avons lu en introduction. Ne vous amassez pas les richesses sur la terre. Et il prépare ses disciples, et je veux croire qu'il nous prépare chacun d'entre nous. Dire les richesses que je vous ai données, ce n'est pas pour chacun d'entre vous, mais ce que vous puissiez les amasser dans le ciel. Sommes-nous prêts à prier les uns pour les autres cet après-midi? Est-ce qu'on pourrait se lever à notre place? Tout simplement et dire, Seigneur, je veux maintenant prier pour ceux qui ont besoin d'être enrichis. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi, mais je veux que tu puisses enrichir ceux qui sont là dans cette salle et qui se sentent pauvres, délaissés, sans avenir, sans espérance. Seigneur, touche leur cœur, voulez-vous prier? Voulez-vous prier? Et puis, voudrions prier également si quelqu'un avait besoin. Cet après-midi, il se trouve dans cette salle et il connaît dans son cœur ce vide. C'est le vide. Peut-être que tu entends le message de l'Évangile depuis plusieurs fois, mais tu es tellement loin de ça et tu es vide. Je crois que cet après-midi, le Seigneur veut remplir ton cœur.